Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 27 août 2024, en direct de Washington, Rosine Munezero. Pour commencer, les titres. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez entame aujourd'hui une visite de 3 jours en Afrique de l'Ouest. Au Soudan, au moins 132 personnes ont péri dans des inondations durant la saison des pluies cette année. En Haïti, la police kényane affirme que le contingent de policiers kényans déployé pour rétablir la sécurité dans le pays a enregistré des progrès significatifs. Et dans l'autre partie magazine, ici aux États-Unis, les républicains, tout comme les démocrates, continuent de faire campagne autour de l'avortement.
Je pense que la campagne sera rude. Je pense que la vice-présidente a maintenant de très bonnes chances de gagner.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, entame aujourd'hui une visite de 3 jours en Afrique de l'Ouest. Son gouvernement est confronté à une forte augmentation de nombre d'arrivées de migrants. Alexandrine Rolognon.
Pedro Sanchez va effectuer une tournée en Mauritanie, en Gambie et au Sénégal. La Mauritanie est devenue ces derniers mois le principal point de départ des migrants ouest-africains. Presque chaque jour, les gardes-côtes espagnols sauvent un bateau transportant des dizaines de migrants africains vers les îles Canaries. Entre le 1er janvier et le 15 août, 22 304 migrants sont arrivés aux Canaries, contre 9 864 pour la même période de l'an dernier, soit une augmentation de 126%. L'année dernière, le nombre d'arrivées a atteint le chiffre record de 39 910, mais les chiffres actuels suggèrent que 2024 établira un nouveau record. Pour résoudre le problème, le gouvernement Sanchez a tenté en juillet de faire adopter par le Parlement une modification de la loi sur l'immigration qui lui aurait donné le pouvoir de répartir les mineurs dans les 17 régions d'Espagne. Pedro Sanchez s'est déjà rendu en Mauritanie en février pour inciter à redoubler d'efforts pour empêcher les départs de migrants.
Les autorités de la République démocratique du Congo ont exprimé leur regret après l'agression dont ont été victimes 3 diplomates français samedi à Kinshasa, a-t-on appris lundi de sources diplomatiques et gouvernementales. Des individus se sont introduits samedi sur un site de la représentation diplomatique française à Kinshasa dans le but de faire déguerpir un diplomate français, a déclaré le ministère de la Justice de la RDC dans un communiqué publié lundi. Parmi les auteurs de cette forfaiture se trouvent des éléments de la police et des agents du parquet. Certains d'entre eux sont déjà aux arrêts, précise le communiqué du ministère qui déplore cet incident. Au Soudan, au moins 132 personnes ont péri dans des inondations durant la saison des pluies cette année, a déclaré hier le ministère de la Santé. Le point avec Mouamadou Oumfa.
Le nombre d'États touchés est de 10 et près de 130 000 personnes sont affectées selon un communiqué du ministère de la Santé. Le nombre de décès a atteint 132, a-t-il ajouté, dans un premier bilan des inondations pendant la saison des pluies qui s'étale entre mai et octobre. Plus de 12 000 maisons se sont effondrées selon le ministère, qui précise que la plupart des dégâts se situent dans les États du Nord et fleuve Nil. Samedi, de fortes pluies ont inondé la région d'Arbat, au nord de la ville de Port-Soudan, dans l'état de la mer Rouge, provoquant l'effondrement d'un barrage. 13 personnes ont été retrouvées mortes et les recherches se poursuivent pour retrouver 210 personnes toujours portées disparues. Selon les Nations Unies, le conflit au Soudan a déjà fait des dizaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de plus de 10 millions de personnes.
Au Mali, l'armée a affirmé lundi avoir visé des cibles terroristes et tué une vingtaine d'individus armés lors d'une opération dimanche dans le nord du pays qui a fait une vingtaine de morts. Selon l'armée malienne, une mission de reconnaissance offensive a permis de repérer et d'identifier des véhicules de type pick-up chargés de matériel de guerre gardés soigneusement dans la cour d'une concession à Tinzawaten. C'est dans la même localité que les rebelles de Touareg et les djihadistes ont affirmé avoir tué des dizaines de combattants russes et de soldats maliens à la fin juillet. L'armée malienne et ses alliés russes ont reconnu des pertes importantes sans donner de bilan précis. En Haïti, le contingent de policiers kényans déployé pour rétablir la sécurité dans le pays a enregistré des progrès significatifs. C'est le constat de la police kényane qui a évoqué hier la reprise d'infrastructures essentielles. Le point avec Jean-Roger Billon.
Deux mois après l'arrivée du premier contingent de policiers kenyans, la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti a permis de reprendre aux gangs le contrôle d'infrastructures essentielles comme l'aéroport, selon un communiqué de la police kenyane. La mission, en collaboration avec la police haïtienne, a également ouvert des routes cruciales qui ont permis le retour de milliers d'Haïtiens déplacés. La mission soutenue par l'ONU est prévue pour une durée initiale d'un an jusqu'en octobre 2024 et chargée de soutenir la police haïtienne dans ses opérations contre les gangs et la criminalité, d'assurer la sécurité des infrastructures et de permettre aux civils d'accéder à l'aide humanitaire. Au moins 400 policiers kenyans sont déployés en Haïti. Plusieurs pays, dont le Bangladesh, le Bénin, le Tchad, les Bahamas et la Barbade, doivent contribuer à cette force qui comptera 2 500 personnes. Des autorités de transition ont été mises en place en Haïti pour une difficile mission de rétablir la sécurité et d'organiser des élections.
L'une des plus grandes prisons d'Ouganda est sans eau depuis presque 2 semaines après que les autorités n'ont pas payé des factures qui s'élèvent à environ 5 millions de dollars, ont déclaré lundi des responsables de l'établissement pénitentiaire. La prison de sécurité maximale de Luzira est en périphérie de la capitale Kampala abrite plus de 8 000 détenus hommes et femmes et environ 2 600 membres du personnel. Selon les registres du Parlement, des négociations sont en cours entre les services pénitentiaires, les ministères des Finances et de la Planification et du Développement économique et la Compagnie des Eaux.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Iran, le président réformiste Massoud Pezeshkian a nommé hier un membre de la minorité sunnite comme son adjoint chargé du développement rural. C'est une chose rare dans ce pays à majorité chiite. Le point avec Lionel Gahima.
Le président a désigné M. Abdelkarim Hossein Zadeh au poste de vice-président chargé du développement rural et des zones défavorisées du pays en raison des précieuses expériences, a indiqué hier le site de la présidence à Téhéran. Monsieur Hossein Zadeh, un réformateur âgé de 44 ans, représente au Parlement depuis 2012 les villes de Nagadeh et Oshnavieh dans le nord-ouest du pays. Il avait souvent pris la parole pour la défense des droits des sunnites, qui représentent environ 10% de la population de l'Iran, où le chiisme est la religion d'État. Ils ont eu rarement accès à des postes importants depuis la fondation de la République islamique en 1979. Lors de sa campagne, Massoud Pezeshkian avait promis d'accroître la représentation des femmes, des jeunes, des minorités ethniques et religieuses, en particulier des sunnites, au sein du gouvernement iranien.
Des frappes massives de missiles et de drones russes ont visé hier les infrastructures énergétiques de l'Ukraine, faisant au moins 4 morts et obligeant les autorités à imposer des coupures de courant. Les précisions avec Dili Diko.
Selon Kiev, 15 régions ont été visées par cette campagne de bombardement russe avec, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, au moins 127 missiles et 109 drones. Il s'agit de l'une des plus importantes attaques russes, a-t-il déclaré. L'Ukraine a abattu 201 des 236 engins lancés par la Russie, a indiqué Mykola Ulechtchouk, commandant des forces aériennes ukrainiennes, dénonçant la plus grosse attaque de missiles. Le distributeur ukrainien d'énergie a procédé à des coupures d'électricité pour stabiliser le réseau, immobilisant brièvement le trafic ferroviaire. Le ministre russe de la Défense a indiqué avoir mené une frappe massive contre des aérodromes militaires et des sites énergétiques. Washington a dénoncé des frappes qu'elle a qualifiées de scandaleuses. Le ministère allemand des Affaires étrangères a accusé la Russie de tenter de détruire l'approvisionnement en électricité de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a appelé les Occidentaux à autoriser son pays à utiliser leurs armes à longue portée contre la Russie, ce que ces pays refusent pour l'instant.
L'armée israélienne a mené ce lundi des frappes meurtrières dans la bande de Gaza au lendemain d'une escalade à la frontière israélo-libanaise où la tension avec le Hezbollah ne cesse de monter. L'armée israélienne a indiqué avoir éliminé durant les 20 dernières 24 heures des dizaines de combattants dans les zones de Khan Younes, Rafah et Deir al-Balah. Pendant ce temps, les médiateurs égyptiens, qatariens et américains tentent toujours d'obtenir un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza assorti de la libération d'otages en échange de prisonniers palestiniens. Un nouveau cycle de négociations a débuté jeudi au Caire avec les Israéliens. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
En Côte d'Ivoire, les pluies ont été inférieures à la moyenne la semaine dernière dans la plupart des régions productrices de cacao. Selon les agriculteurs, plus de pluies combinées au soleil seront nécessaires en septembre et octobre pour augmenter la taille de la récolte principale d'octobre à mars. Ils ont aussi déclaré lundi qu'il y a beaucoup de gousses sur les arbres pour assurer un bon démarrage de la dite récolte. La production industrielle d'or au Mali, l'un des principaux producteurs africains du métal précieux, devrait atteindre ou dépasser ses 57,3 tonnes métriques prévues pour 2024, selon le ministère des Mines. Ce chiffre représente 14% de moins que les 66,5 tonnes atteintes en 2023. Pour terminer, le géant énergétique malaisien Petronas affirme avoir entamé une procédure d'arbitrage auprès du Centre international pour le règlement des différends contre le Soudan du Sud. Ce dernier est accusé d'avoir bloqué une vente de 1,25 milliard de dollars des actifs locaux de Petronas et d'avoir pris le contrôle du champ pétrolifère de l'entreprise en recherchant des partenaires internationaux pour maintenir les opérations et augmenter la production dans les blocs pétroliers.
Place maintenant au sport avec Eric Manilakiza. Bonjour Eric.
Bonjour Rosine.
Alors on connaît l'affiche de la finale de la Ligue des champions féminines de la CAF 2024 pour la CECAFA.
Le Commercial Bank of Ethiopia recevra jeudi le Kenya Police Ballet dans ce qui promet d'être une rencontre mémorable. Après avoir remarquablement triomphé lors des demi-finales, les deux formations se disputeront le titre de championne de la CECAFA et une participation à la Ligue des champions féminines de la CAF.
Et puis le Barça prête l'anglais à l'Atlético Madrid et Victor Roque au Betis.
Oui, le FC Barcelone a annoncé hier lundi le prêt de son défenseur français Clément Lenglet à l'Atlético Madrid, ainsi que celui de son attaquant brésilien Victor Roque, peu prolifique depuis son arrivée en Catalogne au Betis Séville. Le Brésilien de 19 ans est prêté avec option d'achat au Betis jusqu'en juin 2025 avec une année supplémentaire en option, précise le Barça dans son communiqué.
Parlons à présent des Jeux paralympiques qui démarrent demain, mercredi.
À deux jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques, les organisateurs promettent des surprises et une ode à l'électro. Au menu, déjà connu, une ouverture au cœur de la ville avec une parade sur les Champs-Élysées, puis un spectacle place de la Concorde. Intitulé Paradoxe, il mettra en avant tous les corps. Près de 4400 athlètes sont attendus pour les Jeux, pour un total de 168 délégations, dont l'équipe paralympique des réfugiés. Quelques 30 000 spectateurs installés sur des gradins place de la Concorde au cœur de Paris pourront assister à cette cérémonie de 3 heures. 15 000 autres pourront voir la parade des athlètes dans une zone gratuite du bas des Champs-Élysées et 30 000 encore pourront assister à la partie finale de la cérémonie avec l'allumage et le décollage de la vasque aux abords du Louvre. Comme celle du 26 juillet saluée mondialement, cette cérémonie se tient hors d'un stade olympique et le niveau d'ambition est le même, assurent les organisateurs. La vasque olympique sera de nouveau illuminée et décollera dans le ciel de Parisien comme pendant les deux semaines de compétition olympique. La cérémonie de clôture, quant à elle, prévue le 8 septembre au Stade de France, sera le lieu d'un grand concert électro réunissant 24 artistes et DJ.
Et enfin, 88 parasportifs russes alignés sous bannière neutre à Paris.
88 parasportifs russes prendront part sous bannière neutre aux Jeux paralympiques de Paris qui s'ouvrent mercredi, a indiqué le Comité international olympique lundi. En plus de ces 88 concurrents russes, oui, Belarus s'aligneront aussi également sous bannière neutre,
a précisé l'instance lors d'un point presse. La Russie et le Bélarus, son allié, ont été bannis des Jeux olympiques et paralympiques en raison de l'invasion de l'Ukraine il y a plus de 2 ans.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Monezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Des bandes armées et des groupes rebelles compliquent l'accès aux villes et villages où l'on soupçonne la présence de cas de Mpox. Le constat est fait par des responsables gouvernementaux africains au moment où les Nations Unies estiment qu'une prise de conscience est nécessaire pour réduire la recrudescence du virus désigné par l'OMS comme une urgence de santé publique. Reportage de Moki Edwin Kinzeka depuis Yaoundé au Cameroun. Récit Alexandrine Holognon.
Les autorités centrafricaines affirment que les agents de santé qui s'efforcent d'endiguer l'épidémie de Mpox se plaignent de difficultés à accéder en toute sécurité aux villes et aux villages où opèrent des groupes armés. Les troupes gouvernementales centrafricaines se battent contre les rebelles pour mettre fin à la violence qui ont commencé en 2013. Pierre Somsé est le ministre de la Santé de la Centrafrique.
Cette augmentation exponentielle est observée au niveau mondial. C'est une explosion. Bahanga particulièrement a un poste d'observation qui, avec l'appui aussi de VVF qui fait de la surveillance au niveau des animaux. Bien entendu, comme on l'a constaté, il faut renforcer le dispositif de dépistage, de prise en charge. Il faut que nos collègues là-bas soient bien équipés puisqu'on est ici au cœur même du risque. Les stratégies mises en œuvre au niveau des frontières doivent être renforcées.
La RDC est un autre pays en proie à un conflit armé interne et l'OMS indique que le pays compte plus de 95% des quelque 17 000 cas signalés dans le monde cette année. La RDC a signalé près de 530 décès dus à la maladie. L'ONU indique qu'au cours des derniers mois, le virus s'est propagé à 5 pays voisins de la RDC, dont la Centrafrique, le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda. Longonsa Malassi Joseph, ancien membre de Médecins sans frontières, est aujourd'hui conseiller politique auprès du ministre de l'Environnement de la RDC. Il explique que le virus se propage rapidement parce que les travailleurs humanitaires ont des difficultés à se rendre en toute sécurité dans les communautés sujettes au conflit.
Les gens fuient les zones de conflit et dans cette fuite, il n'y a pas d'observation de l'hygiène. Les gens s'enfuient pour sauver leur vie. Cela pose un problème parce qu'on ne peut pas apprendre aux gens à respecter les mesures sanitaires alors qu'ils sont d'abord en train de fuir pour sauver leur vie. Les professionnels de la santé doivent parfois traverser des zones non sécurisées. Ils peuvent être attaqués, ils peuvent être tués, etc.
Les autorités camerounaises affirment également que les rebelles séparatistes rendent pratiquement impossible l'accès des agents de santé aux régions anglophones où se déroulent des affrontements entre les troupes gouvernementales et les séparatistes anglophones. Depuis juillet, le Cameroun a signalé au moins 40 cas suspects de Mpox, dont 3 décès. Une douzaine de ces 40 cas ont été recensés dans la région anglophone du sud-ouest du pays. Le Nigeria déclare également que ses travailleurs humanitaires sont empêchés de sensibiliser les civils à se protéger du Mpox. 32 États de la Fédération nigériane ont signalé au moins un cas confirmé du virus. Le Nigeria lutte depuis plus de 10 ans contre les djihadistes de Boko Haram. Le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo ont déployé des troupes pour protéger les civils et les travailleurs humanitaires. Pour le moment, aucun de ces pays n'a signalé de décès de travailleurs humanitaires.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Nous vous emmenons maintenant en Côte d'Ivoire à la découverte du peuple Akan. Cette ethnie du sud ivoirien est très connue pour son système de royauté qui va même au-delà du pouvoir politique. Notre correspondant Ange Nomenyo nous fait son historique.
Des sons de tam-tam au rythme de chants et de danses. Les habitants de la ville d'Abengourou s'apprêtent à accueillir leur roi au sein du palais. Vêtu de pagnes et de bijoux en or, ce roi est la plus haute autorité de l'ethnie Akan. Une fois arrivé et installé, un de ses proches collaborateurs prend la parole pour dresser une petite historique du peuple Akan. Kofi Assemian, conseiller auprès de la cour royale d'Abengourou.
Le royaume Agni Diablin de Côte d'Ivoire a été créé par Nana Dendou Assamandjé À la tête de sept chasseurs venus du Ghana, président de Dadiesso, le pays hôte qui les a accueillis au sortir de leur exil. Et notre, comment c'est un lieutenant de Nana Bedoui Assamandjé qui a découvert des pépites d'or dans les racines d'un arbuste, ce qui les a amenés à créer un royaume en Côte d'Ivoire.
Le peuple Akan est composé de plusieurs ethnies, notamment les Agni d'Abengourou. En son sein se trouve une catégorie de femmes prêtresses surnommées les Koumian. Ces femmes sont très consultées pour le traitement de diverses maladies. Ange Dangui, élève à l'école des Koumian.
Les solutions dépendent des personnes qui viennent nous voir. Vous voyez, il y a des gens qui sont malades. Il y a d'autres qui ne sont pas malades, mais ils ont d'autres problèmes. Donc on règle tout ça. Quand on peut le faire, on le fait. Quand on ne peut pas, on lui dit qu'on ne peut pas. Même quand on doit passer par les hôpitaux, on passe forcément par les hôpitaux avant d'arriver ici.
Les Koumian ont créé une école dans leur communauté pour assurer la relève. Mais aujourd'hui, il est difficile pour elles de mener leurs activités à cause de manque de financement. Elles en appellent aux bonnes volontés pour assurer la survie de leur culture. Parfait Bougnan, porte-parole des Koumian.
Le centre depuis toujours survi principalement grâce aux efforts de la fondatrice et aussi de bien d'autres personnes. Aujourd'hui, il y a les pensionnaires, il y a des bienfaiteurs, mais avec les crises, ça devient de plus en plus difficile. Donc, pour pouvoir maintenir ce centre comme patrimoine, le centre souhaiterait que l'État de Côte d'Ivoire l'accompagne avec une subvention.
Les Akans de Côte d'Ivoire sont constitués de trois sous-groupes que sont les Akans du Sud, principalement les Baoulés et les populations assimilées aux Baoulés, les Akans frontaliers, notamment les Agni, les Abrons et les Akans lagunaires, les Ébriers, Abourés, Adugrou, Apollonia, Akié. Ange Bijou Lomignon pour VOA Afrique, de retour d'Abengourou dans le sud-est de la Côte d'Ivoire.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Ici aux États-Unis, le colistier de Donald Trump, J.D. Vance, a déclaré dimanche qu'ils ne vont pas imposer l'interdiction fédérale de l'avortement s'il remporte l'élection de novembre. Pendant ce temps, les candidats démocrates Kamala Harris et Tim Walz continuent de faire campagne pour l'avortement après avoir annoncé avoir reçu un record de dons. Véronica Balderas Iglesias de la VOA fait le point. Le récit de Lionel Gahima.
Le candidat républicain à la vice-présidence des États-Unis, J.D. Vance, a répondu dimanche dans l'émission Meet the Press sur la chaîne NBC à la question de savoir s'il s'engage à ne pas imposer d'interdiction nationale de l'avortement s'il est élu en novembre. Sa réponse est venue deux jours après que Trump ait écrit sur sa plateforme Truth Social « Mon administration sera excellente pour les femmes et leurs droits reproductifs ». Mais certains républicains du Congrès font pression pour que l'avortement soit interdit dans tout le pays. J.D. Vance a été interrogé pour savoir si Trump va opposer son veto à ce type de législation s'il revenait à la Maison-Blanche.
Je pense qu'il le ferait, il l'a dit explicitement.
Le ticket démocrate Harris Walz prévient que les droits reproductifs seraient anéantis sous une administration Trump. Tim Walz, le colistier de Kamala Harris, s'est exprimé sur le même sujet lors de la récente convention nationale du Parti démocrate.
Ils interdiront l'avortement dans tous les pays, avec ou sans le Congrès.
Les démocrates espèrent que le succès de leur convention va se traduire par une remontée dans les sondages. La campagne Harris-Walz a annoncé dimanche avoir recueilli quelque 540 millions de dollars depuis son lancement. Le sénateur indépendant Bernie Sanders a exprimé un optimisme prudent sur le fait que la route de la candidate Kamala Harris vers la Maison-Blanche est toute tracée. Sanders a participé dimanche à l'émission This Week sur ABC.
Je pense que la campagne sera rude. Je pense que la vice-présidente a maintenant de très bonnes chances de gagner. Elle va certainement remporter le vote populaire par des millions de voix et je pense qu'elle a une grande chance de remporter de nombreux États.
Le sénateur républicain Tom Cotton n'est pas de cet avis. Il s'est également exprimé sur ABC.
Donald Trump a déjà été président. Le peuple américain sait ce qu'il a fait. Ils savent qu'il comprend le genre de douleur qu'ils ont subi ces quatre dernières années sous Kamala Harris et Joe Biden et pensent que c'est pour cela qu'ils sont prêts à ramener Donald Trump à la Maison-Blanche.
Les deux camps ont prévu plusieurs événements cette semaine. La candidate démocrate et son colistier vont lancer une tournée en bus en Géorgie ce mercredi. De son côté, le candidat républicain doit tenir une réunion publique jeudi dans le Wisconsin et un autre rassemblement vendredi en Pennsylvanie.
À votre avis, une émission interactive sur VOA Afrique. Du lundi au vendredi, micro ouvert sur l'actualité brûlante, les sujets sociaux et culturels. Enregistrez vos réactions sur WhatsApp +1 202 297 60 89. Participez en nous contactant sur notre page Facebook ou appelez-nous en direct à partir de 18h05, temps universel, au +1 202 205 26 33. À votre avis, la parole est à vous, tous les jours, sur VOA Afrique.
Le directeur de la NASA, Bill Nelson, a déclaré samedi que les deux astronautes qui ont volé vers la Station spatiale internationale début juin à bord de la capsule Starliner de Boeing devront revenir sur Terre avec un appareil de SpaceX en février prochain. Les problèmes de propulsion de Starliner, qui est en phase de test, rendent le retour avec l'équipage trop risqué. Nathalie Barge revient sur la conférence de presse qui a été donnée à l'issue d'un comité décisionnel de la NASA.
Les astronautes de la NASA Butch Wilmore et Sonny Williams devaient rester une semaine dans la Station spatiale internationale, mais ils vont finalement y rester 8 mois. Le système de propulsion de Starliner a subi des problèmes dès les 24 premières heures de vol, déclenchant des retards à répétition. Bill Nelson, directeur de la NASA.
Les vols spatiaux sont risqués. Même dans les conditions les plus sûres et routinières. Et un vol d'essai par nature n'est ni sûr ni routinier. La décision de garder Butch et Sonny à bord de la Station spatiale internationale et de ramener le Boeing Starliner à la maison sans équipage est donc le résultat d'un engagement envers la sécurité. Notre valeur fondamentale est la sécurité et c'est notre étoile du Nord.
La NASA a réclamé des analyses supplémentaires, arrivant finalement à un désaccord technique avec Boeing, a déclaré Steve Stitch, directeur du programme d'équipage commercial de la NASA. Lors de la conférence de presse, la question de la confiance entre l'agence spatiale américaine et Boeing a été posée. Steve Stitch, directeur du programme d'équipage commercial de la NASA.
Je n'appellerai pas nécessairement cela de la confiance. Je dirais plutôt un désaccord technique où nous réunissons un groupe d'ingénieurs et ne sont pas d'accord sur le niveau de risque de ce qui pourrait potentiellement arriver au propulseur. Boeing a fait un travail excellent en construisant un modèle. Maintenant, la question de savoir si ce modèle est suffisamment bon pour prédire les performances d'un équipage.
Les deux astronautes devraient revenir en février 2025 à bord d'un vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX qui doit être lancé fin septembre dans le cadre d'une mission régulière. Deux des quatre sièges de cet appareil serviront à ramener sur Terre Wilmore et Williams. Norm Knight, directeur des opérations de vol à la NASA.
J'ai parlé avec Butch et Sonny, ils soutiennent pleinement la décision de l'agence et ils sont prêts à poursuivre cette mission à bord de la Station spatiale internationale en tant que membre d'équipage de l'expédition 71.
Boeing assurait début août être confiant dans la capacité de Starliner à revenir en toute sécurité avec l'équipage. Sonny Williams, astronaute de la NASA.
Je suis convaincu que si nous devions le faire, s'il y avait un problème avec la Station spatiale internationale, nous pourrions monter dans notre vaisseau spatial et nous désamarrer, parler à notre équipe et trouver le meilleur moyen de rentrer à la maison. Nous nous sommes beaucoup entraînés, donc j'ai le sentiment que le vaisseau spatial nous ramènera à la maison sans problème.
Boeing espérait que sa mission d'essai Starliner permettrait de racheter le programme en difficulté après des années de problèmes de développement. Starliner regagnera la Terre sans équipage début septembre.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Rosine Mwezero. À la mise en onde, Firmin Koyaweda. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.